a été établi pour que notre génération, celle qui se réunit aujourd'hui autour de ta parole, puisse connaître Jésus-Christ, puisse connaître l'espérance chrétienne et puisse à notre tour parler à nos enfants. Donc donne-nous, Seigneur, d'être ceux qui mettent notre confiance en Dieu, ceux qui n'oublient pas la manière d'agir du Seigneur, ceux qui respectent tes commandements, que tu nous accompagnes, que tu nous parles, que nous puissions être ceux qui entendent ce que tu nous dis. Et nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, trois choses cette semaine que j'ai lues en revenant des vacances, que j'ignorais jusqu'à ce que j'arrive ici. Première chose, domaine sportif. Donc, patience si le sport ne vous intéresse pas. Le club de foot de Moucron, j'avoue que je ne suis pas un grand fan du foot moucronois, mais apparemment, après 5 défaites sur 5, je ne sais pas ce qui a lieu hier, s'ils ont joué hier, en ce début de saison de championnat belge, a déjà renvoyé l'entraîneur Franck Defay et il s'est fait remplacer par Laurent Desmolles. Voilà, nouvelle pour le foot belge. Ensuite, nouvelle d'une toute autre sorte, beaucoup plus difficile à apprendre, que le policier amoureux d'Elleray, père de 38 ans, a été abattu le week-end dernier à Spa lorsqu'il procédait au contrôle d'un taxi. Ces funérailles, vous le savez bien, si vous êtes en Belgique, ce dernier temps ont eu lieu jeudi dernier. Dernière chose que j'ai apprise cette semaine. Au Royaume-Uni, un médecin chrétien évangélique qui a été nommé dans le cadre de son travail pour un poste en tant que médecin pour un département du gouvernement britannique a été renvoyé de son poste. Les consignes pour le rôle qu'il allait prendre, c'était de traiter des demandes de personnes invalides pour des allocations d'invalidité. Et il disait ces consignes que le médecin devait référer à une personne selon le genre désigné par la personne même. Donc, si un homme se présentait pour l'évaluation, mais il disait qu'il se considérait une femme, le médecin était sous obligation d'appeler la personne Madame et non pas Monsieur. Ce médecin refusait de faire cela, non pas avec but de faire discrimination contre les personnes considérées transgenres, mais afin de maintenir sa liberté en tant que chrétien de faire autrement. Et donc, ce monsieur a été renvoyé de son poste. Donc, trois histoires tout à fait différentes, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas que je cherche à tirer ces trois événements par les cheveux pour trouver une signification un peu farfelue dans notre texte de ce matin. Non. Mais je me sers de ces trois histoires pour illustrer, d'une manière ou d'une autre, certains aspects de notre texte de ce matin. Nous nous retrouvons, comme au début de cet été, au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, un chapitre, nous avons déjà eu l'occasion de remarquer, rempli de paraboles de Jésus, paraboles à propos du royaume des cieux. Ces paraboles ont pour but d'équiper les disciples à comprendre ce qu'il en est du royaume dans ce monde-ci. Car même si la venue de Jésus signifie que le royaume des cieux a démarré, car le roi instauré par Dieu, Jésus lui-même, est venu sur terre, donc le royaume a démarré, ce royaume dont parlait Jésus n'est pas encore venu dans toute sa plénitude. Et cela signifie que le royaume fonctionne différemment de ceux qui s'attendent à un royaume qui transforme tout. Maintenant, et c'est une chose très importante à apprendre pour des croyants de ce royaume de Dieu. Et la parabole de la mauvaise herbe ou du livret nous explique qu'effectivement, et ça vous allez voir sur le dos de votre feuillet, il y a deux temps prévus pour le royaume. Un premier temps où il y a une période de coexistence, si vous voulez. Et ensuite un second temps où il y a une période de séparation. Donc nous allons d'abord prendre ce premier point, la période de coexistence. Je pense que la parabole en tant que telle est assez simple à comprendre, n'est-ce pas? Il y a un homme qui sème la bonne semence dans son champ. Si nous sommes sensibles au contexte de cette parabole, si suit celle du semeur. Nous avons déjà entendu parler de la semence qui tombe dans la bonne terre et qui porte du fruit. La bonne semence dans cette parabole de la mauvaise herbe, nous le dit Jésus au verset 38, ce sont les enfants du royaume. Verset 37, celui qui sème la bonne semence, c'est Jésus, le Fils de l'homme. La bonne semence consiste donc de se nourrir par la parole semée de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui porte du fruit, qui sont prêts à être moissonnés par la suite. Mais, dans ce champ, nous avons lu, il n'y a pas que de la bonne semence. Non, l'ennemi a semé, pendant la nuit, la mauvaise herbe parmi le blé. Et donc, lorsque la bonne semence pousse et porte du fruit, la mauvaise herbe fait de même. Bah, chaque jardinier, je pense, connaît la difficulté, n'est-ce pas, de la mauvaise herbe. La lutte contre la mauvaise herbe, c'est quelque chose de continu, n'est-ce pas? J'avoue que je n'ai pas vraiment la main verte. Ceux qui me connaissent savent que je laisse à mon épouse. Je ne suis pas un bon mari, je le sais. Mais c'est elle qui prend du plaisir dans notre jardin, ce n'est pas moi. Mais bon, de temps en temps, je dois faire des choses. Et donc, dans ce cas-là, je demande à mes enfants de me remplacer. Mais je dois constater que quand même, la mauvaise herbe, c'est quelque chose où il faut lutter contre. C'est un travail régulier d'arracher la mauvaise herbe si nous voulons avoir un gazon parfait, présentable pour nos invités, etc. Je ne dis pas que vous devez avoir cela, ce n'est pas le cas pour nous. Mais je ne critique pas non plus mon épouse parce qu'elle fait un magnifique travail dans ce qu'elle fait. Donc voilà, vous m'avez suivi jusque-là. Contrairement à ce qui se fait dans nos jardins, ici, lorsque les serviteurs du maître de la maison posent la question au verset 28, « Veux-tu que nous allions arracher cette mauvaise herbe ?» C'est normal d'avoir ce réflexe-là, n'est-ce pas? Le maître dit non, car de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déracinez en même temps le blé. Il faut plutôt laisser l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, la mauvaise herbe sera arrachée. Dans ce champ, donc, les deux poussent en même temps. Ni l'un ni l'autre est arraché avant la moisson. Et donc, il y a un premier temps du royaume, nous dit Jésus, pendant lequel, verset 38, les enfants du royaume et les enfants du mal vont coexister dans le monde. C'est prévu, cette période, nous dit Jésus. Le champ, c'est le monde. Et dans ce monde, pendant un premier temps, nous voyons à la fois les enfants du royaume à l'œuvre, à la fois les enfants du mal à l'œuvre. Ces derniers qui sont le fruit de l'ennemi des enfants du royaume, à savoir le diable, selon le verset 39. Le diable, donc, qui nous donne, comme nous avons chanté le chant de Martin Luther, ces jours de détresse, parce que c'est un ennemi mortel, rusé, fort, cruel. Et c'est-à-dire que pendant ce premier temps, nous aurons donc parfois des doutes au sujet de la puissance du royaume de Dieu. Car d'un côté, nous verrons de bonnes choses dans ce royaume, pendant ce premier temps, des personnes qui répondent à l'appel de l'évangile de Jésus-Christ, qui humblement captivés par la grâce de Dieu en Christ, se soumettent au règne de Jésus-Christ. Mais d'un autre côté, nous verrons également un monde dans lequel le mal reste à l'œuvre. Nous avons tendance à penser, je pense, que celui qui tient le pouvoir et qui ne mène pas ce pouvoir de manière efficace doit être renvoyé de son poste de pouvoir. Voilà pourquoi l'entraîneur de Mukran s'est fait déjà renvoyer 5 défaites sur 5. Voilà pourquoi moi, en tant que supporter de Manchester United, j'aimerais bien que Mourinho soit renvoyé le plus vite possible. Je ne pense pas que ça aura lieu. Dans le monde commercial, si le PDG d'une société préside sur une période de perte de bénéfices pendant une longue période, il est renvoyé de son poste. Il ne fait pas bien son travail, il ne se sert pas de son pouvoir comme il doit le faire. Si un président d'un pays, démocratique en tout cas, n'arrive pas à faire ce qu'il avait promis pendant la campagne électorale, alors il sera normalement renvoyé lors des prochaines élections. C'est comme ça que ça marche. Si quelqu'un a du pouvoir, il faut que ce pouvoir serve à des fins efficaces. Donc si Jésus-Christ, comme disent les chrétiens, c'est le roi, on pourrait s'attendre à ce qu'il exerce son pouvoir de manière efficace. Maintenant, n'est-ce pas? Et je pense que c'est pour cette raison-ci que beaucoup de l'Église chrétienne cherche encore à nos jours à proclamer un message triomphaliste, un message de prospérité maintenant, de victoire dans beaucoup de domaines de notre vie maintenant. Dans un sens, c'est compréhensible. Où Christ, le roi désigné par Dieu qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, il est Seigneur, il est loin de Dieu, désigné le roi par Dieu. Et Dieu lui a dit, selon le psaume 2, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et donc on se demande, qu'en est-il de cette réalité? Avançons alors, proclamons la victoire de Christ. La puissance de Dieu se manifestera davantage parmi nous, par des signes, des prodiges, des miracles. Les ténèbres seront vaincues par la lumière. La puissance de Christ se manifestera. On s'attend à une avancée plus glorieuse du royaume aujourd'hui. Une avancée plus évidente à nos yeux. Dans un sens, c'est compréhensible. Mais dans un autre sens, ce genre de réaction n'est pas compréhensible. Car nous avons ici, dans cette parabole, la mise en garde de la part de Jésus. Dans le monde actuel, le royaume de Dieu coexiste avec le malin, avec des ennemis, avec les enfants du mal. Ce n'est pas que pendant cette période, le royaume de Dieu n'avance pas du tout. Mais comme l'indiquent les autres paraboles qui se trouvent entre la parabole elle-même ici et son explication qui vient quelques versets plus tard, cet avancement du royaume qui a lieu actuel est difficile à nos yeux à observer. Comme le grain de moutarde toute petite, comme le levain au sein de la pâte. Nous ne voyons pas l'impact du levain lorsqu'elle est en train d'influencer toute la pâte. Donc c'est difficile à observer, mais toutefois réel, le royaume avance. Et cela signifie que nous ne devons pas avoir des attentes irréalistes, chers frères et sœurs, quant à l'avancement du royaume pendant ce premier temps. Le malin y est, la mauvaise herbe, il y en a. Les histoires telles que, qui a eu lieu à Spa doivent encore nous attrister, doivent nous donner soif pour la justice et la paix. Mais nous ne devons pas penser que d'ici la moisson, de telles choses ne vont pas avoir lieu. En tant que chrétien, il y aura de l'opposition. Entendre parler du médecin chrétien qui a perdu son poste, car par principe, il ne voulait pas accepter que le genre d'une personne soit subjectif aux yeux de la personne, au lieu d'être objectif, car cela relève de notre identité en tant qu'être créé à l'image de Dieu, homme et femme. Cela doit nous attrister d'entendre parler de cela. Doit nous motiver aussi pour défendre le point de vue chrétien tellement important pour le respect mutuel des uns des autres dans notre société. Mais cela ne doit pas nous surprendre. On est encore pendant la période de ce premier temps. Ce n'est pas pendant la période de la semence où tous les ennemis du royaume seront visiblement aplatis sous le règne de Christ. Certains se sont servis de cette parabole, de ce texte, pour défendre la thèse que même au sein de l'Église, là où les enfants du royaume se rassemblent dans le corps de Christ, nous ne devons pas exercer de la discipline entre nous, car nous devons laisser, dit-on, le blé et la mauvaise herbe, tous les deux pousser dans l'Église. Mais cela n'est pas juste, car le champ, Jésus nous le dit explicitement, n'est pas l'Église, mais le monde. Dans le monde, il y a le royaume et de l'opposition. Au sein du royaume, au sein de l'Église, cela reste, selon d'autres passages bien entendu, tout à fait juste de faire une distinction entre un comportement digne des enfants du royaume et un comportement qui n'est pas digne de telle personne. Donc, pendant cette période, avant la moisson, dit Jésus, il va falloir faire face à ces deux réalités dans notre monde. À titre personnel, à titre familial, à titre professionnel, nous devons une fois de plus être préparés pour cette réalité, pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Sommes-nous prêts pour cela? Des membres de la famille qui nous agacent par rapport à notre foi, qui partagent pas du tout les mêmes valeurs. Des copains et des copines à l'école qui ont pour outil la moquerie, les commérages, les mensonges. Des collègues paresseux ou malins qui parlent derrière le dos des responsables. Tous n'auront pas le réflexe de suivre Jésus-Christ. Beaucoup ne reconnaissent pas Jésus comme le roi. C'est la réalité. Et là où il y aura des progrès pour le royaume de Dieu, cette année-ci, dans ces différents domaines, famille, école, collègues au travail, etc. Là où l'Église, là où il y a du progrès, où il y a de la croissance, nous devons nous attendre à de l'opposition de la part de l'ennemi. Il sème, rappelons-nous, de manière inaperçue l'ennemi, pendant la nuit. Mais le fruit de sa semence se ressent. Et donc, nous ne devons pas être surpris de cela. Donc voilà, si d'un côté, nous ne devons pas être surpris, d'un autre côté, nous ne tombons pas dans le désespoir lorsqu'on voit les deux choses qui poussent en même temps. Car cela ne serait pas toujours ainsi. Deuxième point. Dans un second temps, il y aura une période de séparation. Dans un deuxième temps, il y aura une période de séparation. Car selon la parabole, il y aura une moisson. L'arrachement de la mauvaise herbe aura lieu au même moment que le blé est amassé dans le grenier du fermier. Verset 39, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et donc, à la fin du monde, verset 41, le Fils de l'homme enverra ses anges. Que feront-ils? Ils arracheront de son royaume tous les pièges tous ceux qui incitent les autres donc à pécher, ainsi que tous ceux qui commettent le mal, littéralement ceux qui sont sans loi, qui ne respectent aucune loi, qui ne sont pas sous l'autorité du Seigneur. Et à ce moment-là, la coexistence termine et la séparation aura lieu. D'un côté, ceux qui sont jetés dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Cela, bien entendu, parle du jugement final, du châtiment éternel. De l'autre côté, il y a les justes qui resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Cette séparation, c'est le dernier mot de la part de Dieu au sujet de notre destin ultime. À ce moment-là, il n'y aura pas moyen de changer notre statut. Pas moyen d'uploader une nouvelle image sur les réseaux sociaux pour donner bonne impression de ce qui nous sommes et qui cache la réalité. Le juste jugement tombera. Il n'y a que deux destinations. L'une d'une peine éternelle, l'autre d'une joie éternelle. Le roi ne permettra pas la mauvaise herbe de pousser, vous savez, pour toujours. Sinon, il n'est rien qu'un roi, il est impuissant, incapable de faire prévaloir sa volonté. Ce n'est pas le cas. Notre Dieu est un roi puissant. S'il y a le danger de croire pendant cette période de coexistence, une fois que la fin arrive, il n'y aura aucun doute au sujet du pouvoir du roi. Il est effectivement le roi des rois et tous ses ennemis seront son marchepied. Cela nous encourage donc, en tant que peuple de Dieu, de persévérer dans la foi malgré les frustrations de la vie présente, malgré la coexistence, même au sein de notre famille, au sein de notre bureau, du mal avec le bien. Et bien sûr, cela nous appelle de manière directe à nous trouver du bon côté de la séparation qui va avoir lieu, n'est-ce pas? La division dans le monde, il y en a, nous sommes habitués à une division d'une certaine manière, n'est-ce pas? Être sélectionné pour une équipe sportive ou pas cette année-ci, parce que je vais rater la sélection, c'est une sorte de division. On doit faire face à cela. Réussir un examen ou rater un examen. Il y a séparation qui va avoir lieu. Il y a une déception de se trouver sur le mauvais côté, n'est-ce pas? Réussir un entretien ou rater un entretien. Promotion au travail ou rétrogradation au travail. On n'aime pas se trouver du mauvais côté de la séparation. Résultat d'un contrôle de santé positif. Résultat négatif. Se retrouver sur le mauvais côté d'une séparation, d'un tri, ça fait mal. Mais ici, c'est le tri définitif, chers amis. Au-dessous de toute autre séparation dont nous avons affaire dans notre vie présente. Et celui-ci, c'est le tri avant tout à ne pas rater. Jésus ne nous joue pas avec nos émotions ici. Certaines personnes nous accusent de cela, comme si Jésus manipule les autres avec la peur du jugement final pour les effrayer, pour qu'ils le suivent par la suite. Non, est-ce que quand vous roulez en voiture, vous voyez un panneau de sécurité sur l'autoroute qui dit « Attention, il y a des travaux dans 2 km », est-ce que c'est pour nous faire peur inutilement, cela? Non, c'est par amour que ça a été écrit, pour qu'on prenne conscience du danger qu'il y a. Merci Seigneur pour ces panneaux. C'est par amour que Jésus nous parle de son jugement pour que nous l'évitions. Alors comment est-ce que nous nous trouvons donc du bon côté? Alors, nous devons nous tourner vers le Fils de l'homme, vers Jésus, par la foi. Notons qu'au verset 37, c'est le Fils de l'homme qui sème la bonne semence et c'est lui qui enverra ses anges pour le tri à la fin du monde. Le Fils de l'homme, c'est un titre que Jésus réclame d'un personnage dont parle le prophète Daniel, à qui le Seigneur accorde tout pouvoir pour juger. Et donc, même si le verset 43 parle du royaume du Père, le Père confie, il délègue le jugement au Fils de l'homme, à Jésus. Donc, il faut se tourner vers le Fils. Le psaume 2 disait ceci, « Embrassez le Fils, de peur qu'il se mette en colère. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. » Vous savez, beaucoup aujourd'hui essayent de faire distinction entre Dieu et Jésus. Comme si nous pouvons donc adorer Dieu sans forcément avoir un regard pour Jésus. On peut penser donc que, voilà, je suis plus ou moins adorateur de Dieu et je suis, disons, neutre en ce qui concerne Jésus. C'est-à-dire que je n'ai pas d'avis par rapport à Jésus. Je suis ni pour ni contre. Je peux assister à l'église, mais je peux aller ailleurs tout en étant OK avec ce que je crois, peu importe ce que je dis sur Jésus. Mais pas d'avis sur Jésus-Christ, cela signifie que je n'ai pas fléchi le genou devant Jésus-Christ. Et c'est lui, le Fils de l'homme, qui règne. Comme disait Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 5, le Père a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute, disait Jésus, ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. S'approcher de Jésus par la foi, c'est de croire en Dieu le Père qui l'a envoyé. Honorer le Fils, c'est d'honorer le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est de ne pas honorer le Père. Les justes, nous dit ce texte à la fin, resplendiront comme le soleil. C'est une image tirée de la fin du livre de Daniel qui part au chapitre 12 de ceux qui se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces ou sages brilleront, dit le texte, comme la splendeur du soleil. Et les justes, qui sont donc ces justes qui resplendiront comme le soleil? Ben, c'est ceux qui sont justes grâce à leur foi en Jésus-Christ. Jésus lui-même disait au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, il n'est pas venu pour appeler les bien portants, mais des malades. Il n'est pas venu pour les justes, mais les pécheurs. Les justes, donc, ce sont ceux qui reconnaissent que Jésus est venu, a été envoyé pour pardonner les pécheurs. Là, nous avons commencé notre culte. Ils sont sages, ils reconnaissent le roi, ils honorent le Fils, et donc ils honorent le Père. Ben, Jésus termine la parabole, le dernier verset, avec un appel. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Peut-être vous avez constaté qu'au début de son explication, verset 36, le texte est marqué qu'il laissa la foule et il entra dans la maison. Et c'est les disciples qui ensuite cherchent l'explication de la parabole. Ils veulent apprendre du royaume. Ils veulent être ceux qui entendent réellement ce que Jésus dit. Qu'en écoutant les paroles de Jésus, nous soyons donc menés à comprendre ce matin que le royaume vient en deux temps. Un premier, dans lequel nous nous trouvons encore un temps de coexistence avec le mal. Mais un second temps, lorsqu'il y aura séparation éternelle. Prenons à cœur ce que Jésus nous dit, chers amis. Prenons courage face au mal, même le mal qui est proche de vous, chers amis. Et continuons à proclamer cette année-ci de la rentrée la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour que d'autres, à leur tour, se tournent vers lui et entrent dans ce royaume. Prions ensemble. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Seigneur, nous te demandons de nous aider à encore réfléchir sur ta parole. Nous te louons que tu nous avertis par rapport à ces deux temps du royaume. Te prions pour la persévérance pendant ce premier temps, que nous ne soyons pas naïfs en ce qui concerne les tactiques du diable. Et Seigneur, que tu nous aides également à nous tourner vers le Christ, le Fils de l'homme, celui qui a tout pouvoir pour juger. Et qu'en lui, nous puissions passer de la mort à la vie, que nous puissions éviter la peine éternelle afin de bénéficier de la vie éternelle. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen.